Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle. Vous renouvellerez la face de la terre. Prions. Ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien. De jouir sans cesse ces divines consolations pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il, je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, dans le polycopier de Saint Matthieu, de chapitre 21 à 25, nous sommes à la page 10. Nous allons terminer aujourd'hui, je pense, le chapitre 21 de Saint Matthieu et commencer le chapitre 22. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ a donné comme exemple à ses disciples, à ses apôtres, la parabole des serviteurs qui sont envoyés par le maître à la vigne, pour y recueillir les fruits de sa vigne. Mais les vignerons se saisissent des serviteurs, les battent, les tuent, les lapident. Alors le maître de la vigne se dit, je vais envoyer mon fils, ils auront moins du respect pour mon fils. Mais les vignerons, voyant le fils, dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et nous aurons un héritage. Et le tuèrent. Alors que va faire notre Seigneur? Il fera périr misérablement ces misérables. Il louera sa vigne à d'autres vignerons qui en rendront les fruits en leur temps. Donc il est évident que ici c'est le peuple juif qui est représenté par cette parabole. Donc notre Seigneur Jésus-Christ arrive, il est envoyé par Dieu, le Fils de Dieu arrive pour recueillir les fruits de sa vigne, de son Église. Et les Juifs, au lieu d'accepter, vont le crucifier après l'avoir torturé. Et il va mourir le Vendredi Saint pour récupérer et pour ressusciter plus exactement, et récupérer tout son pouvoir, quelque sorte, le jour de Pâques. Alors voyons un petit peu ce que disent les Pères. Nous avons déjà expliqué ça en partie. Je vais terminer à la page 10. Donc, moralement parlant, le vignoble est capable de donner des bonnes grappes de raisins, même si les ouvriers sont moralement mauvais. De même, l'Église et ses membres, disent les pères de l'Église, produisent de bonnes œuvres de vertu, même si les pasteurs et maîtres sont parfois mauvais, comme les scribes. Mais l'Église produira de plus grands fruits si les pasteurs sont bons, comme on le voit chez les apôtres, dont les vertus apostoliques furent imitées par les premiers croyants, surtout s'ils excellent en charité, patience, chasteté et toutes les vertus. Donc la règle est toujours la même. Avec les générations, en général, on descend d'un degré. Si les pasteurs sont des saints, les générations suivantes de pasteurs, les fidèles plus directement, seront de bons fidèles. Si les pasteurs ne sont que de bons pasteurs, les fidèles seront de moyens, des fidèles très moyens. Et si les pasteurs sont très moyens, bien les fidèles seront bien faibles. Et si les pasteurs sont faibles, les paroissiens, les fidèles seront mauvais carrément. Et c'est la même chose souvent dans les familles, faut pas se faire d'illusions. Si les parents sont des saints, agissent comme des saints, vivent comme des saints, ils auront de bons enfants. Si les parents sont bons, les enfants sont moyens. Si les parents sont moyens, les enfants sont très faibles. Et si les parents sont faibles, les enfants sont carrément mauvais. Et donc il faut demander au bon Dieu d'avoir ce grand désir de l'absolu pour nous et pour les âmes de nos enfants. Le Père donne un exemple ici. Un peintre fameux, qui s'appelait Zeuxis, avait dessiné un garçon avec un panier de grappes de raisin de façon si parfaite et si belle que l'œuvre trompait les oiseaux qui volaient vers ces grappes pensant qu'elles étaient réelles, essayant de les manger. Et Zeuxis dit modestement, « J'ai mieux peint les grappes que le garçon, car les oiseaux volent vers les grappes et ne craignent pas le garçon qui se tient là et qui n'est qu'une image. » Ainsi, les pasteurs et gardiens de l'Église sont fréquemment dépravés et mal représentés, mais les grappes, c'est-à-dire les travaux des gens, sont meilleures et plus belles. À cause du manque de soins des gardiens, c'est-à-dire des pasteurs, ces grappes deviennent la proie des oiseaux, de proie, à savoir les démons qui vont les dévorer. Ainsi donc, disent les pères, les pasteurs et les gardiens de l'Église sont fréquemment dépravés et mal représentés, mais les grappes, c'est-à-dire les travaux des gens, sont meilleures et plus belles. Donc, je répète, ce texte est tellement important à cause du manque de soins des gardiens, c'est-à-dire des pasteurs, ces grappes deviennent la proie des oiseaux de proie, à savoir des démons qui vont les dévorer. Et les pères de l'Église disaient ça il y a 1500 ans, 1600 ans. Qu'est-ce qu'ils diraient aujourd'hui? Il faut se rappeler, par exemple, le message de la Salette, officiellement reconnu par l'Église, bien que beaucoup de traditionalistes le nient. Donc, la Très Sainte Vierge Marie est apparue en 1846, en septembre 1846, 19 septembre exactement, à la Salette, dans les Hautes-Alpes, entre Gap et Grenoble. Et ce secret a été reconnu par l'Église et aurait dû être publié en 1858. Mélanie avait été avertie par la Sainte Vierge. Ce que je vais vous dire, Mélanie, maintenant ne sera pas toujours secret. Vous pourrez le publier en 1858. Et voilà ce que disait la Sainte Vierge en 1858. Que dirait-elle aujourd'hui? Le message, le secret commence ainsi. Les prêtres ministres de mon Fils, les prêtres par leur mauvaise vie, par leurs irrévérences et leur impiété à célébrer les saints mystères, par l'amour de l'argent, l'amour de l'honneur et des plaisirs, les prêtres sont devenus des cloaques d'impureté. Oui, les prêtres demandent vengeance et la vengeance est suspendue sur leur tête. Malheur aux prêtres et aux personnes consacrées à Dieu, lesquels, par leur infidélité et leur mauvaise vie, crucifient de nouveau mon Pie, mon Fils. Les péchés des personnes consacrées à Dieu crient vers le ciel et appellent vengeance. Et voilà que la vengeance est à leur porte, car il ne se trouve plus personne pour implorer miséricorde et pardon pour le peuple. Il n'y a plus d'âme généreuse, il n'y a plus personne digne d'offrir la victime sans tâche à l'Éternel en faveur du monde. Les chefs, les conducteurs du peuple de Dieu ont négligé la prière et la pénitence, et le démon a obscurci leur intelligence. Ils sont devenus ces étoiles errantes que le vieux diable traînera avec sa queue pour les faire plaisir. Il y a bien des choses à dire sur ce message. Bon, c'est pas le but du cours, donc je passe, mais il faut méditer ce message extraordinaire, tellement important qu'on ne peut même plus le trouver à la Salette. Si vous allez à la Salette, priez là-bas. Je vous le conseille beaucoup, c'est un lieu magnifique et plein de grâce. Les prêtres de la Salette, qui ne sont même plus catholiques de nom, sont totalement modernistes, refusent de vendre dans la librairie, refusent de présenter aux pèlerins le texte complet. Ils ne gardent que la première partie du texte qui parlait des catastrophes au niveau des récoltes et du double esprit, de la double intelligence de Napoléon III. Mais il y a toute une partie justement qui annonce la crise de l'Église, hein, avec des prophéties extraordinaires. Il faut méditer ces choses-là. C'est un texte reconnu par l'Église, attention, hein. Paris sera brûlé, Marseille engloutie, plusieurs grandes villes seront ébranlées et englouties par des tremblements de terre. On croira que tout est perdu, on ne verra comme ici, on n'entendra que bruit d'âme et que blasphème. Pour un temps, Dieu ne se souviendra plus de la France et de l'Italie, parce que l'évangile de Jésus-Christ n'est plus connu. Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce de la ville de Rome? Est-ce que c'est la Rome papale dont il est parlé là? Mais la Sainte Vierge l'a dit, Rome perdra la foi, deviendra le siège de l'Antéchrist. C'est surtout à cause de ces textes que beaucoup d'hommes d'Église, au temps de l'apparition, dans 1846, beaucoup d'évêques en France se sont très fortement opposés
à diffusion du message de la sellette. Encore une partie de ce texte, je n'ai pas le temps de tout lire, mais je donne les parties principales. L'Église sera éclipsée, le monde sera dans la consternation. Et voici qu'Enoch et Élie, remplis de l'Esprit de Dieu, prêcheront avec la force de Dieu, et les hommes de bonne volonté croiront en Dieu, et beaucoup d'âmes seront consolées. Ils feront de grands prodiges, de grands progrès par la vertu du Saint-Esprit, et condamneront les erreurs diaboliques de l'Antéchrist. Alors, il faut mettre tout ça entre les mains du bon Dieu, mais demander justement cette grâce de devenir, dans notre la pratique de notre devoir d'État, devenir des saints. Que nous, prêtres, nous travaillons à la sanctification des âmes consacrées, de nos propres âmes. Et si les prêtres deviennent des saints, alors à ce moment-là, les fidèles seront plus facilement placés sur la voie de la sainteté. Donc les pères font remarquer que les scribes, les prêtres et les pharisiens sont les constructeurs de la synagogue, l'église juive, et ils ont rejeté le Christ comme étant une pierre sans valeur. Comme il les dérangeait, il le condamne et le tue. Les scribes, qu'il appelait autrefois laboureurs et vignerons, sont maintenant des constructeurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui étaient des amis de notre Seigneur Jésus-Christ vont devenir des ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils étaient des pasteurs et ils vont devenir des mercenaires. Et les mercenaires, quand ils voient le loup arriver, eh bien, ils vont se sauver en courant. Donc le Christ, c'est le résumé donné par les pères, le Christ expose clairement et applique les trois paraboles qu'il vient de leur donner. La première concerne les deux fils, l'un obéissant, le deuxième désobéissant. La deuxième concerne le vignoble, dont les vignerons tuent les serviteurs et le fils du propriétaire. La troisième expliquant que la pierre rejetée est devenue pierre d'angle pour les scribes eux-mêmes et pour les juifs qui les suivaient. Ô vous, scribes, vous êtes des fils désobéissants à Dieu votre Père, car vous me persécutez, moi, son fils unique, envoyé par lui. Vous êtes les vignerons de la vigne et vous me tuez, moi qui suis l'héritier. Vous êtes les constructeurs de la synagogue qui m'avez rejeté comme une pierre. Mais Dieu a fait de moi la base et la fondation de son Église. Il vous la prendra pour la transférer aux gentils qui la recevront avec ardeur pour m'adorer et être revêtus par moi de grâce et de gloire. Et ces pères de l'Église qui écrivaient il y a 16 ou 17 siècles parlent tous de la même façon. Là encore une fois, on voit très bien qu'ils parlent de ce transfert. Dieu prendra pour la transférer aux gentils son Église. Et les gentils la recevront avec ardeur pour m'adorer et être vêtus par moi de grâce et de gloire. Ce transfert, je vous en ai déjà souvent parlé, c'est le transfert de l'Église juive à l'Église catholique. Comme les Juifs ont été infidèles à notre Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas voulu accepter notre Seigneur Jésus-Christ qui arrivait alors qu'il avait été annoncé pendant des millénaires par les prophètes, eh bien notre Seigneur Jésus-Christ va rejeter les Juifs et va aller chercher un autre peuple. Et je vous ai déjà prévenu plusieurs fois que le bon Dieu, s'il a déjà fait ça une fois, peut très bien faire ça une deuxième fois avec nous si nous sommes infidèles. Donc demandons la grâce de la fidélité. Dans tous ces cas, les deux fils, les vignerons qui tuent les serviteurs et le fils du propriétaire, la pierre rejetée qui devient pierre d'angle et qui écrase les constructeurs, eh bien représente justement le Christ qui, voyant que ses enfants sont infidèles, va chercher d'autres personnes pour prendre les places. Et l'histoire est vieille, hein, elle a commencé au ciel. Lorsque Satan et un tiers des anges s'est révolté contre notre Seigneur, quand Satan s'est mis à hurler « Je ne servirai pas », eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, le bon Dieu, n'a pas hésité et a expédié en enfer, a créé l'enfer à cet instant même pour y châtier les mauvais anges. Et donc, ceux qui avaient été choisis par Dieu pour être participants de sa gloire au ciel, les anges, eh bien, un tiers de ces anges est chassé, renvoyé du ciel, et d'autres créatures vont venir prendre la place des anges. Et ce sont les catholiques qui vont venir prendre la place des anges. Donc il faut prier, mes bien chers frères, prier pour la conversion des Juifs, pour qu'ils retrouvent ce Messie qu'ils ont rejeté, et aussi prier pour nous catholiques, pour que nous soyons fidèles. Parce que malheureusement, si les Juifs ont été infidèles au temps de notre Seigneur Jésus-Christ, sachez bien qu'aujourd'hui, les catholiques, c'est guère plus brillant. Hein. Nous aussi, on est infidèles. Et tout ce que dit la Sainte Vierge à la Salette en 1846 correspond tout à fait à ce que notre Seigneur Jésus-Marie pourrait malheureusement dire aujourd'hui de chacun d'entre nous, à commencer par moi-même. Lorsque le prince des princes des prêtres, c'est le verset 45 et 46, la fin du chapitre 21 de Saint Matthieu, lorsque les princes des prêtres et les pharisiens eurent entendu ces paroles, ils comprirent que Jésus parlait d'eux et cherchaient à se saisir de lui, mais ils craignirent les foules parce qu'ils le regardaient comme un prophète. Donc l'homme bon qui tombe dans un péché le regrette parce qu'il a péché, mais l'homme mauvais regrette non parce qu'il a péché, mais parce qu'il est trouvé dans cet état. Non seulement il ne se repent pas, mais s'indigne face à ceux qui lui font des reproches. On voit très bien chez les enfants, c'est très caractéristique, les enfants cachent beaucoup moins les choses que nous. Quand un enfant fait une bêtise et que sa maman le prend en flagrant délit et fait une remarque vigoureuse à l'enfant, qui vient de faire une grosse bêtise, il y a deux possibilités. Il y a l'enfant qui tombe dans les bras de sa mère pour lui demander pardon tout de suite, qui pleure véritablement avec de vraies larmes et qui demande pardon et qui prend les moyens pour ne pas recommencer. Et puis il y a l'enfant qui malheureusement rejette sa mère. Alors, c'est pas moi qui l'ai fait, vous avez mal vu, c'est pas moi, c'est mon frère, c'est l'autre, je suis pas responsable, j'ai rien fait. Il ne veut pas reconnaître qu'il a offensé sa mère. Avec le bon Dieu, c'est pareil. Est-ce que nous reconnaissons que nous avons offensé notre Seigneur? L'homme mauvais, disent les pères, autant qu'il le peut, pose ses mains sur Dieu et le met à mort. Une faute d'orthographe là. Et le met à mort, car celui qui foule aux pieds les commandements de Dieu murmure contre Dieu ou élève vers le ciel un regard morose. N'a-t-il pas la volonté de lever ses mains sur Dieu, le tuer pour qu'il puisse pécher sans contrainte? Et donc il faut comprendre la gravité de nos actions lorsque nous ne remplissons pas notre devoir d'État. C'est pas simplement nous que nous condamnons, mais malheureusement dans bien des cas, nous condamnons aussi nos enfants, nos propres enfants, qui seront condamnés. Nous avançons donc dans ce texte de Saint Matthieu. Maintenant, nous passons au chapitre 22. Chapitre 22, Saint Matthieu, versets d'abord 1 à 14. Donc, je vous lis le texte. Jésus, prenant la parole, parla de nouveau en parabole, disant : Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit faire les noces de son fils. Et il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ne voulaient pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux invités, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes animaux engraissés sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais ils ne s'en inquiétèrent point, ils s'en allèrent, l'un à sa ferme, l'autre à son négoce. Les autres se saisirent de ses serviteurs, les tuèrent et après les avoir acclamés d'outrage. Lorsque le roi l'apprit, il fut irrité. Ayant envoyé ses armées, il extermina ses meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais ceux qui avaient été invités n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs, s'en allant par les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, mauvais et bons, et la salle des noces fut remplie de convives. Le roi entra pour voir ce qui était à table et il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale. Et il lui dit, mon ami, comment êtes-vous rentré ici sans avoir la robe nuptiale? Et cet homme demeura muet. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Voyez, on retrouve toujours le même thème. Notre Seigneur Jésus-Christ va répéter les mêmes choses sous diverses formes, dans plusieurs paraboles différentes, mais qui ont toute la même signification. Donc le royaume de Dieu ressemble à un grand banquet pour les noces, et le Père invite donc tous les invités à la noce. Et ceux qui étaient invités, les premiers des invités, évidemment, c'est le peuple juif. C'est le peuple juif qui était invité depuis le départ. Et le peuple juif ne veut pas venir. Il ne voulait pas venir. Alors le maître du festin insiste, j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes animaux sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Mais ils ne s'en inquiétèrent point, ils s'en allèrent, l'un à sa ferme et l'autre à son négoce. Et ils vont même jusqu'à se saisir les serviteurs du roi, les tuer et les accabler d'outrage. Alors que va faire le roi prenant une telle ingratitude? Il va envoyer ses armées, il extermine ses meurtriers, il brûle leur ville et il va chercher d'autres personnes, toujours la même chose, le grand remplacement, il va chercher d'autres personnes pour venir prendre la place des juifs qui n'ont pas voulu profiter des grâces de la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, tous les pères de l'Église, pratiquement tous, expliquent de la même façon que ces noces à laquelle le roi invite, les noces du Fils, eh bien, c'est représente le mystère de l'incarnation. Les noces de son Fils, de ce roi, c'est Dieu le Père, le Fils, c'est Dieu le Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, et les noces, c'est l'union sacrée entre la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ et l'humanité qui lui a été donnée depuis le sein de la très sainte Vierge Marie. Eh bien, c'est donc le mystère de l'incarnation qui est ici fêté. Ces noces représentent donc l'union dans la même personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, de l'humanité avec la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ, le Fils, a épousé en quelque sorte l'humanité et a uni sa divinité avec l'humanité. Il est véritablement Dieu, véritablement homme. Il est homme sans cesser d'être Dieu, il est Dieu sans cesser d'être homme. Il est devenu homme pour pouvoir se faire il est devenu homme pour pouvoir souffrir pour nous. Il est devenu homme pour que l'homme puisse devenir Dieu, étant littéralement divinisé par la grâce sanctifiante. Il y a des textes admirables des pères sur le sujet, j'en ai pris ici quelques-uns, j'ai choisi le plus beau que j'ai trouvé, il y en a certainement d'autres. Donc en bas de la page 11, par ce mariage, j'ai représenté l'Église présente. Et par le festin, la dernière fête éternelle, Dieu le Père organisa le mariage pour Dieu le Fils quand il prit la nature humaine dans le sein de la Vierge. Oui, c'est bien le mystère de l'incarnation. Il n'en faudrait pas conclure, puisque le mariage prend place entre deux personnes différentes, que la personne de notre Rédempteur est composée de deux personnes différentes. Non, une seule personne, la deuxième personne de la Sainte Trinité, avec deux natures. Ce n'est pas un mélange, comme beaucoup de gens pensent, un mélange entre la divinité et l'humanité, non. Notre Seigneur Jésus-Christ est parfaitement Dieu, parfaitement homme. Nous tenons donc que le Christ existe en deux natures, n'est pas composé de deux personnes, mais d'une seule. La fête du mariage fut organisée par le roi, Dieu le Père pour le roi, Dieu le Fils, quand il épousa la Sainte Église dans le mystère de l'incarnation. Donc c'est à la fois le mystère du mariage entre l'humanité et la divinité par le mystère de l'incarnation, et c'est également le mystère du mariage de notre Seigneur Jésus-Christ avec son épouse mystique qui est l'Église. Notre Seigneur Jésus-Christ est l'époux de l'Église. La chambre nuptiale fut donc le sein de la très sainte Vierge Marie. Et beaucoup de pères disent la même chose, il y a pratiquement l'unanimité des pères sur l'interprétation qu'il faut donner à ce mariage. Il y a plusieurs passages dans les évangiles, on verra les autres petit à petit, plusieurs passages dans les évangiles qui parlent justement de ce mariage, auquel tous les hommes sont invités. Mais on va voir au verset 11 qu'il faut être revêtu de la robe nuptiale pour pouvoir pénétrer dans la salle du banquet. Et si je n'ai pas sur moi la robe nuptiale, eh bien je serai rejeté de la salle du banquet et on va lier mes mains et mes pieds, on va me jeter dans les ténèbres extérieures, là où il y aura beaucoup de pleurs et de grincements de dents. Parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc nous verrons avec les pères, tous les pères aussi interprètent de la même façon, que il y a encore d'autres interprétations qui peuvent être données, c'est que ce mariage, c'est ce banquet sacré, c'est aussi la Sainte Eucharistie, conséquence directe du mystère de l'incarnation. Donc la Sainte Eucharistie qui va nourrir véritablement les âmes. Et le bon Dieu invite tous les hommes à ce banquet sacré. J'ai préparé mes festins, mon festin, mes bœufs, mes animaux engraissés sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Ça, c'est la Sainte Eucharistie, la Sainte Messe. Et tous les hommes sont invités à venir assister à ce repas sacré. Mais il y a une condition, il faut être revêtu de la robe nuptiale. Donc lorsque le roi, notre Seigneur, entre pour voir dans l'église ceux qui étaient à table, à la Sainte Table, qui se présentent à la Sainte Table, eh bien, vérifie que tous ceux qui prétendent vouloir manger notre Seigneur Jésus-Christ, recevoir la Sainte Communion en nourriture, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, mais ils vérifient qu'ils ont tous leur vêtement nuptial. Ce vêtement nuptial, c'est la charité, la grâce sanctifiante. Malheur, malheur à celui qui ose aller communier un tas de péchés mortels. C'est un sacrilège épouvantable, certainement les péchés les plus graves qui se puissent commettre en toute connaissance de cause, communier un tas de péchés mortels. Encore une fois, c'est comme si je fracturais les portes du tabernacle pour prendre les hosties consacrées dans le ciboire et que j'allais répandre ces hosties consacrées devant le pied devant les cochons ou les chevaux pour que les cochons et les chevaux viennent manger le corps de notre Seigneur. Enfin, c'est vraiment ça. Alors ensuite, on va en bas de la page 11, ensuite à la page 12, donc les symboles qui sont expliqués par les pères, donc que représentent ces bœufs, ces animaux engraissés, ces serviteurs. Donc les serviteurs d'abord qui sont envoyés, la première et la deuxième fois, représentent les prophètes et les apôtres. Les bœufs sont les pères de l'Ancien Testament. Les animaux engraissés sont les pères du Nouveau Testament, qui pendant qu'ils sont engraissés, sont élevés par les ailes de la contemplation des désirs terrestres aux désirs célestes. Pour d'autres, ces animaux engraissés sont les prophètes remplis du Saint-Esprit. Les bœufs sont les prêtres et les prophètes comme Jérémie et Ézéchiel, car les bœufs mènent le troupeau comme les prêtres mènent le peuple. Dans d'autres textes des pères, ils comparent souvent les prêtres aux chiens de garde du berger. Donc le berger conduit son troupeau, c'est le bon pasteur, notre Seigneur Jésus-Christ, il a des chiens de garde, des chiens de berger. C'est très beau de voir des chiens de berger très bien dressés. Comment ils font leur travail pour rassembler les brebis et transmettre les ordres, littéralement, du maître du troupeau. Et donc, lorsque le berger donne un ordre aux chiens d'aller rassembler les brebis, ben les chiens partent tout de suite en courant pour aller faire leur travail. Et si une brebis s'est éloignée du troupeau et prétend vivre de façon en autarcie, complètement isolée du troupeau, eh bien, le maître va envoyer les bergers, le maître va envoyer les chiens de garde pour récupérer la bête qui s'est éloignée et la ramener dans le troupeau, pour qu'il n'y ait qu'un seul troupeau et un seul pasteur. Donc, comme les bœufs mènent le troupeau, de même les prêtres mènent le peuple. Vous voyez comment ces textes qui semblent peu importants ont tout un symbole. J'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes animaux engraissés sont tués, tout est prêt, venez aux noces. Donc ces bœufs, c'est la glorieuse armée des martyrs aussi. Ce sont toutes les pères de l'Ancien Testament, donc les différents bergers qui se sont occupés des troupeaux de Christ. Donc les bœufs sont la glorieuse armée des martyrs, offertes comme des victimes de choix pour la confession publique de Dieu. Les autres animaux engraissés sont les hommes spirituels qui sont comme des oiseaux nourris pour voler vers la nourriture spirituelle, pour pouvoir remplir les autres de l'abondance de la nourriture qu'ils ont mangée. Tout est prêt, dit le maître. Tout ce qui est nécessaire pour le salut est maintenant rempli par les Écritures. Donc l'ignorant peut trouver dans ce festin l'instruction. Celui qui suit sa volonté propre y trouvera la terreur. Celui qui est dans la difficulté, les promesses de se mettre au travail. Imaginez deux personnes qui s'approchent de la Sainte Table pour recevoir la communion, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. L'une est en état de grâce et l'autre malheureusement en état de péché mortel. Le premier communie reçoit sur ses lèvres, sur sa langue, le corps, le sang, l'âme et la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est le Saint-Esprit qui envahit cette âme du feu sacré de sa divinité pour illuminer cette âme et l'aider à rester en état de grâce. Et au contraire, imaginez une autre personne qui vient communier en état de péché mortel. Hélas, eh bien, au lieu de recevoir le Saint-Esprit, il va recevoir le démon littéralement qui va le pénétrer avec cette communion sacrilège et faire jeter ce sacrilège dans le lieu des pleurs et des grincements de dents, parce qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Donc cette phrase aussi, tout est prêt, appartient au mystère de la passion du Seigneur et de notre rédemption. Celui qui ne pense qu'aux affaires de ce monde, qui consacre au monde toutes ses actions, qui fait semblant de méditer sur le mystère de la passion du Seigneur et d'y modeler sa vie, et celui qui refuse de venir au mariage du roi sous le prétexte qu'il doit aller à sa ferme ou s'occuper de ses biens. Donc les pères de l'Église font remarquer que cette ferme, ces biens temporels qui empêchent les invités d'aller au mariage, ils s'en allèrent l'un à sa ferme, l'autre à son négoce, et bien cette ferme, ce négoce, et bien représente les trois concupiscences, concupiscence des yeux, concupiscence de la chair, concupiscence de l'orgueil. Et les pères de l'Église explicitent tout ça de façon assez extraordinaire. Donc, la ferme représente la concupiscence des yeux, la concupiscence de la chair aussi, et qui empêche l'homme de se rendre à l'invitation de notre Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ nous appelle à la sainteté. Malheureusement, bien souvent, nous refusons d'y aller. Et donc, j'utilise une excuse pour ne pas aller au mariage du roi, sous prétexte qu'il faut aller à la ferme, à ma ferme, et m'occuper de mes biens matériels. Et donc, ceux qui étaient invités, les premiers invités, c'était les Juifs, attention. Non seulement ils rejettent la grâce, mais ils deviennent des persécuteurs, ils se saisirent de ses serviteurs et les tuèrent. Vous voyez, on n'est pas plus malin, hein. Il ne faut pas croire que les Juifs seuls ont trahi notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aussi, on fait exactement la même chose, parce que malheureusement, nous commettons une faute grave. Donc, ici, voilà l'explication des pères, au quatrième paragraphe de la page 12, sur le polycopier. Par la ferme et le négoce sont désignés le peuple juif, qui a été séparé du Christ par l'attrait des plaisirs mondains. Le négoce concerne les prêtres et les autres ministres du peuple, du temple, qui viennent au service de la loi et du temple pour l'attrait du gain, et qui ont perdu la foi à cause de l'attraction pour l'argent. Donc les armées envoyées par le roi sont les Romains, sous Vespasien et Titus, en 71, qui ont massacré les habitants de la Judée et laisseront en cendres la cité infidèle de Jérusalem. Les armées du roi représentent aussi les légions d'anges. Le roi a envoyé ses armées à exterminer les meurtriers parce que tous les jugements sont exécutés sur les hommes par les anges. Il brûla leur ville car non seulement les corps seront tourmentés, mais également les âmes dans le feu éternel de l'enfer. Donc cela représente déjà... C'est une image du jugement général. À la fin des temps, le bon Dieu viendra séparer les brebis et les boucs. Il mettra les bons à sa droite. Venez les bénis de mon Père, possédez le royaume de Dieu préparé par mon Père. Et il va aussi rassembler à sa gauche les boucs. Donc non plus les brebis, mais les boucs cette fois-ci. Et allez maudits, éloignez-vous de moi, maudits, allez au feu éternel, parce que vous avez refusé justement de reconnaître la divinité de mon divin Fils. Et là, encore une fois, on retrouve toujours la même idée. Tous les pères disent la même chose. La nation juive ayant été rejetée, le peuple des gentils est invité au mariage. C'est la substitution. Le peuple des gentils, c'est le peuple catholique, vient prendre la place de la nation juive parce que la nation juive n'a pas voulu venir au mariage qui fêtait l'union entre l'humanité et la divinité, entre le Seigneur Jésus-Christ. Ils ont refusé l'incarnation, ils ont refusé de voir Dieu qui se cachait derrière l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils ont refusé l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, jointe à cette divinité. Et évidemment, ils ont pas pu rentrer dans la salle du festin. Donc c'est la phrase qui résume tout. La nation juive ayant été rejetée, le peuple des gentils est invité au mariage. Notez, ça j'insiste là-dessus, que toutes ces phrases des pères, qui sont très fortes, hein, n'ont rien à voir avec l'antisémitisme. Hein. C'est pas du tout l'antisémitisme. L'antisémitisme a toujours été condamné par l'Église. On a parole d'être contre les juifs parce qu'ils sont juifs, de même qu'on a parole d'être contre les noirs parce qu'ils sont noirs, ou les arabes parce qu'ils sont des arabes. Hein. Ça c'est de c'est du racisme qui est condamné par l'Église. Bon, qu'on se protège de nos ennemis, c'est autre chose. Si vous savez qu'il y a une famille de bandits qui habite l'autre côté de la rue, bon, faites attention, fermez vos portes et vos fenêtres la nuit pour qu'il n'y ait pas de vol pendant la nuit. Parce que vous savez que vos voisins sont des gens qui sont des voleurs et des menteurs. Bon, c'est absolument évident, donc on a le droit de se protéger. Mais on n'a pas le droit d'être contre une catégorie de gens sous prétexte qu'ils ont une couleur de peau qui ne vous plaît pas. Ça, c'est condamné par l'Église, attention. Ceci dit, l'Église a toujours enseigné, même si ça déplaît fortement à M. Bergoglio et à ses petits copains, l'Église a toujours enseigné la théorie de la thèse de la substitution. Le peuple, la nation juive ayant été rejetée, le rideau du temple se déchire le vendredi saint, le peuple des gentils est invité pour prendre au mariage la place du peuple élu. Donc le peuple des gentils devient le nouveau peuple élu. Allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Donc le texte sacré, le roi dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, c'est au verset 8 et 9, les noces sont prêtes, mais ceux qui avaient été invités n'étaient pas dignes, ça c'était le peuple juif. Allez donc dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez, ça c'est le peuple catholique qui arrive. Et les serviteurs s'en allèrent par les chemins, rassemblant tous ceux qu'ils trouvaient, bons et mauvais. La salle des noces fut remplie de convives. Ça c'est la substitution, donc le peuple catholique qui prend la place du peuple juif. Attention, le peuple des juifs à la fin des temps reviendra, je vous l'ai déjà dit très souvent, c'est l'enseignement de saint Paul, reviendra, il y aura une conversion au moins d'une partie d'un reste du peuple juif. Donc ils sont nos frères dans la foi, dans le sens qu'ils sont les racines de la foi catholique, mais ils ne sont pas catholiques parce qu'ils nient notre Seigneur Jésus-Christ. Le fondement de la foi catholique, c'est quoi? C'est la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Si notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas Dieu, eh bien, toute l'Église catholique s'effondre. Or, les Juifs rejettent notre Seigneur Jésus-Christ. Rejettent, ils prétendent que celui qu'ils ont crucifié le vendredi saint il y a 2000 ans n'était pas fils de Dieu parce qu'ils rejettent la Sainte Trinité. En fait, ils rejettent non pas la Sainte Trinité, mais ils ne croient pas que ce notre Seigneur Jésus-Christ, ce Christ qui est venu il y a 2000 ans, était le Messie. Et donc, ils attendent toujours le Messie. Et quand ils le reverront, ce sera à la fin des temps, au moment du jugement général, ce sera trop tard. Étudions maintenant l'enseignement des pères sur cet homme qui se présente dans la salle de fête sans être vêtu de la robe nuptiale. C'est au verset 11 du chapitre 22 de saint Matthieu. Le roi entra pour voir ce qui était à table. Il aperçut un homme qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale. Et lui dit, mon ami, comment êtes-vous rentré ici sans avoir la robe nuptiale? Et cet homme demeura muet. Et le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds et jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents, car beaucoup sont appelés et peu sont élus. Alors, voyons un petit peu ce que disent les pères sur le sujet. Donc, ce maître qui voit un invité qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale, c'est le Christ, et il le rejette parce que cette robe nuptiale représente la vertu de charité. La vertu de charité, je vous l'ai déjà dit je ne sais pas combien de fois, la vertu de charité, c'est tout simplement la grâce sanctifiante. Donc celui qui se présente au banquet sacré de la Sainte Communion, la Sainte Eucharistie, sans être en état de grâce, commet un sacrilège épouvantable. Encore une fois, c'est sans doute le plus grave de tous les péchés qui se peuvent commettre. Ce péché, il y a une hiérarchie un peu dans ces péchés. Les péchés les plus graves qu'on puisse commettre sont les péchés qui tournent autour de la foi. Autour de la foi, c'est-à-dire le rejet de notre Seigneur Jésus-Christ, le rejet de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, le péché d'infidélité. Et le péché d'infidélité à notre Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire de ne plus croire à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, est un péché qui va entraîner l'idolâtrie et l'apostasie. Donc là, je suis infidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, et parce que je suis infidèle à notre Seigneur Jésus-Christ, ben je vais finir par remplacer notre Seigneur Jésus-Christ dans mon âme par quelqu'un d'autre. Ces péchés d'idolâtrie, l'adoration d'un faux Dieu, et ce péché d'idolâtrie va entraîner l'apostasie. Et ça, c'est pas simplement valable pour les Juifs, c'est aussi valable pour vous et moi, mes bien chers frères. Si je laisse le péché mortel dans mon âme va devenir toute noire, va devenir toute laide, va commencer à sentir la puanteur du péché. Et si je reste en état de péché mortel pendant un certain temps, ben je vais finir par perdre la foi littéralement et par tomber dans le péché d'idolâtrie, remplaçant le bon Dieu par une créature. Et ceci va m'amener à adorer de faux dieux et à l'apostasie. Donc l'idolâtrie mène à l'apostasie. Et la conséquence de l'apostasie, là, il faut relire le chapitre 1er de l'épître de saint Paul aux Romains, deuxième partie du chapitre 1er de saint Paul aux Romains. La conséquence du péché d'idolâtrie, du péché d'apostasie, c'est les péchés contre nature. Et ça, on le voit aujourd'hui dans le monde moderne, il suffit malheureusement d'ouvrir les yeux, les péchés contre nature ont envahi le monde, il y en a toujours eu malheureusement, de tous les siècles, il y a eu les péchés contre nature, ce que Saint Paul appelle avec une certaine modestie, si vous voulez, dans les termes, les efféminés. Les efféminés, c'était les pécheurs contre nature, les sodomites. Et ça, c'est tout à fait l'enseignement de l'Église, que ces péchés se multiplient comme un châtiment de l'idolâtrie. Et l'idolâtrie est une conséquence directe de l'infidélité. Je suis infidèle parce que je vis dans le péché mortel tout le temps, donc je tombe dans l'idolâtrie, et l'idolâtrie ouvre la porte à tous les péchés contre nature. Puis une fois qu'on tombe dans ces péchés contre nature, pour arriver à sortir de là, il faut des miracles de la grâce. Donc je pense qu'une des premières choses à faire dans ce triste sujet, sur ce triste sujet, c'est de prendre les termes qu'il faut utiliser. Vous voyez ? On parle souvent, malheureusement dans le monde moderne, en parlant des homosexuels, et les pauvres gens comme ça, des gays, des gens qui sont des gays. Et en fait, l'homosexuel n'est pas gay du tout, il est triste comme un balai. Pourquoi ? Parce qu'il vit contre nature. Et ce qu'il faut bien comprendre, je voudrais vous lire le texte, dont je parle, de Saint Paul aux Romains, donc c'est pas moi qui écris ça, hein. C'est Saint Paul, il y a 2000 ans. Et les choses n'ont pas changé d'un poil. Les vérités sont toujours les mêmes. Donc, je lis l'introduction de Saint Paul et le texte vraiment qui nous préoccupe, c'est à partir du verset 18, du premier chapitre de Saint Paul aux Romains, toute la deuxième partie du chapitre 1. Voici que du ciel, dit Saint Paul, en effet se révèle la colère de Dieu contre toute impiété et toute injustice des hommes qui détiennent la vérité captive de l'injustice. Car ce qu'on peut connaître de Dieu parmi eux manifeste, Dieu leur a manifesté. Depuis la création du monde, en effet, ses attributs invisibles deviennent par ses œuvres visibles à l'intelligence, sa puissance éternelle comme sa divinité. Aussi sont-ils inexcusables, puisque connaissant Dieu, ils n'en ont ni glorifié ni remercié comme Dieu, et au contraire, ils se sont perdus en de vaines pensées, et leur cœur inintelligent s'est enténébré. Donc le péché entraîne une cécité intellectuelle, un aveuglement de l'intelligence. Pour prouver l'existence de Dieu, il n'y a pas besoin d'être catholique, hein. Il suffit de regarder, ouvrir les yeux, de voir la création. Et de la création, on monte au Créateur. Et voilà le texte qui commence à s'éclaircir sur ce sujet qui nous préoccupe. Se flattant d'être des sages, les hommes sont devenus fous. Et à la gloire de Dieu et du Dieu immortel, ils ont substitué des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que ces hommes, à cause de cet aveuglement spirituel dans lequel le bon Dieu a permis qu'ils tombent, eh bien, à cause de cet aveuglement enténébré, leur cœur intelligent s'est enténébré, dit Saint Paul, à cause de ça, ils vont substituer à la gloire du Dieu immortel, des images représentant l'homme mortel, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est les faux dieux. Toutes les statues des idoles, les faux dieux. L'homme rejette notre Seigneur Jésus-Christ et remplace le Dieu créateur et rédempteur par des faux dieux. Alors ici, Saint Paul parle des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Il pourrait aussi parler de toutes les choses modernes, c'est pareil. Et donc, Saint Paul est clair. Donc cet enténèbrement, pas un mot très français, mais ça fait, je le prononce quand même, cette cécité intellectuelle, cet enténèbrement de l'intelligence, entraîne, par le péché, le biais du péché d'apostasie, entraîne l'adoration des faux dieux, l'idolâtrie. Et ensuite, voilà le texte qui nous préoccupe surtout, qu'on croirait écrit pour aujourd'hui. Voilà pourquoi, c'est Saint Paul qui parle, Dieu a livré ses hommes avec les convoitises de leur cœur, à l'impureté, pour qu'en eux soit déshonoré leur propre corps. Eux qui ont échangé la vérité divine pour le mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, lequel est béni éternellement. Amen. Donc, il répète, attention, c'est le péché d'idolâtrie. J'adore la créature au lieu d'adorer le Créateur. Les conséquences, voilà la conséquence. C'est pourquoi. Donc, deuxième, première conséquence, premier fait, l'aveuglement de l'esprit. L'aveuglement de l'esprit entraîne l'idolâtrie. L'idolâtrie entraîne l'apostasie, ou l'apostasie entraîne l'idolâtrie, comme vous voulez. Et cela va provoquer des tentations contre nature que saint Paul explicite. C'est pourquoi, dit-il. Donc, à cause de cette idolâtrie, Dieu a livré ses hommes à des passions infamantes. En effet, leurs femmes ont échangé le commerce naturel pour celui qui est contre nature. Pareillement, les hommes ayant abandonné le commerce naturel avec la femme se sont consumés de désirs les uns pour les autres, ayant d'homme à homme des relations honteuses et recevant ainsi en eux-mêmes le juste salaire de leur égarement. C'est clair. Pas moi qui écris ce texte. Qu'est-ce que dirait saint Paul aujourd'hui? Donc ça prouve qu'il y avait déjà au temps de saint Paul, donc au premier siècle après notre Seigneur Jésus-Christ, donc il y avait déjà malheureusement ces péchés qui commençaient à se répandre. Alors saint Paul détaille, comme ils n'ont pas jugé bon de bien connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur intelligence pervertie pour faire ce qui ne convient pas. Remplis qu'ils sont de toute injustice, méchanceté, cupidité, malice, plein d'envie, de meurtre, de dispute, de fourberie, de perfidie, médisant, calomniateur, honni de Dieu, insolent, orgueilleux, présomptueux, ingénieux pour le mal, rebelle aux parents, sans discernement, sans loyauté, sans cœur, sans pitié. Eux qui connaissent le jugement de Dieu, que ceux qui commettent de tels actes méritent la mort. Non seulement ils le font, mais encore ils approuvent ceux qui les commettent. Il y a tout là-dedans. Tout ce qui se passe actuellement est décrit par saint Paul. Et après, on essaie de nous faire croire que ces péchés contre nature ne sont pas des péchés, mais c'est tout simplement des choses naturelles. Le péché n'est pas quelque chose de naturel, c'est contre nature, déjà. Et surtout ces péchés-là, on les appelle péchés contre nature, c'est pour cela qu'ils sont tellement graves, ces péchés, que l'Église ne sait pas très bien où les classer, les a classés dans un paragraphe spécial sur le catéchisme, des péchés qui crient vengeance contre le ciel. J'ai eu, parfois, ça arrivait très souvent aux États-Unis malheureusement, et en ce moment ça arrivait aussi en France, j'ai eu parfois des gens qui sont tombés dans ces vices, qui essayent de s'en tirer avec la grâce du bon Dieu. Et j'ai vu des conversions, mais c'est très très dur. Parce que là, il faut un changement, il faut littéralement déraciner l'arbre qui a poussé de travers contre nature et le replanter dans le bon sens. Et j'ai vu des conversions admirables de sodomites qui ont changé de vie avec la grâce du bon Dieu et qui, tout honteux, viennent parfois, ça arrive à une retraite, ça peut arriver. J'ai prêché plus de 300 fois les exercices, j'ai vu plusieurs cas comme ça qui viennent me voir en me disant, voilà, monsieur l'abbé, je veux que vous sachiez que mais malheureusement, je fais partie de ces pauvres gens qui ont été châtiés par le bon Dieu, qui tombent dans ces péchés contre nature. Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Est-ce qu'il faut que je me tire une balle dans la tête? Bien sûr que non. À tout péché, miséricorde, monsieur. À tout péché, miséricorde, et vous devez, et vous pouvez reprendre le bon chemin. Et j'aide ces gens tout simplement à se préparer une bonne confession générale. Et j'ai entendu des confessions admirables de ces gens qui pleuraient comme des enfants confessionnels de regret de ses péchés, et aussi pleurant parce qu'ils se rendent très bien compte que, comme ce sont des péchés contre nature, la nature même est tellement blessée qu'il va falloir maintenant des prodiges d'amour du bon Dieu pour arriver à ramener ces hommes vers le port du salut. Mais Dieu est miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Vous voyez, donc Il faut que ces pauvres gens qui sont dans ces péchés-là prient le bon Dieu, ne se découragent jamais. Ne se découragent jamais. Et surtout qu'ils n'écoutent pas tous les médias qui essaient de leur faire croire que ces choses sont naturelles et que donc ils n'ont pas lutté contre ça parce que c'est tout à fait naturel. C'est comme si je disais, moi je bois deux bouteilles de whisky tous les soirs et je bats ma femme et mes enfants tous les soirs. C'est naturel chez moi parce que j'ai toujours fait ça depuis que j'ai 20 ans. Ou comme si je disais, moi je sais pas, je, 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 Je vole des portefeuilles parce que je suis kleptomane et c'est naturel chez moi, j'ai toujours fait ça, donc il faut respecter ça. Bien sûr que non, on ne respecte pas le péché. Le péché n'est pas respectable. Le retour du pécheur à Dieu est respectable, mais pas le péché lui-même. C'est pour ça qu'il y a ces textes donc, très forts de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on voit très bien là, à la fois là, la miséricorde du bon Dieu, où se manifeste cette miséricorde. La miséricorde, on la voit au chapitre 22, donc celui qu'on étudie de Saint Matthieu, au verset 9. Allez, allez dans les carrefours, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Les noces sont prêtes. Ceux qui avaient été invités n'étaient pas dignes. Allez maintenant, cherchez tout ce que vous trouverez. Ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, les mauvais et les bons. Ils sont allés par les haies, au-delà des haies, ils sont rassemblés tout le monde. Et le roi va venir une première fois, va trouver qu'il manque encore, il y a encore des places vides. Il va renvoyer ses serviteurs, allez, chercher d'autres personnes. Et finalement, tous les pauvres, les petits vont venir. Ça, c'est la miséricorde du bon Dieu. Mais en même temps, la justice. Le roi entra, verset 11. Pour voir ceux qui étaient à table, il aperçut là un homme qui n'était pas revêtu de la robe nuptiale. Mon ami, comment êtes-vous entré sans avoir la robe nuptiale? Et l'homme demeura muet, il ne pouvait rien répondre, évidemment. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les mains et les pieds, et jetez-le dans les ténèbres extérieures, là il y aura des pleurs et des grincements de dents. Beaucoup d'appelés, miséricorde, peu d'élus, justice. Et on voit très bien la miséricorde et la justice en Dieu. Et si, malheureusement, il faut aussi rajouter ça, je pense que si ces péchés contre nature, hélas, aujourd'hui, se répandent de plus en plus parmi les hommes d'Église, même si c'est dans l'Église de Vatican II, je pense que c'est une conséquence directe des péchés. Ces péchés contre nature sont une conséquence directe de l'apostasie des nations. Ces pauvres prêtres ont perdu la foi. Ces pauvres prêtres, au lieu d'adorer notre Seigneur Jésus-Christ, adorent l'homme. Ils ont mis l'homme à la place du Dieu. Ils sont donc tombés dans le péché de l'idolâtrie. Et la conséquence, c'est que Dieu, en quelque sorte, les permet qu'ils tombent dans un aveuglement, une cécité spirituelle, une cécité intellectuelle totale. Et du coup, ils ne savent plus ce qu'ils font. Ils tombent dans les péchés contre nature. Ils se jettent comme des poissons dans la nasse, si vous voulez, qui va les amener à la sur la poêle à frire. Et littéralement, ils se jettent entre les mains du démon. Et le démon les fait tomber dans ces péchés contre nature parce qu'il sait que les péchés contre nature sont très, très difficiles à rattraper. Mais ils ne sont pas impossibles. Encore une fois, tout péché, miséricorde. Donc, celui qui n'a pas la robe nuptiale, disent les pères, il n'a pas la charité. Le mariage est donc celui du Seigneur qui épouse l'Église. Celui qui entre dans la salle du festin sans la robe nuptiale est celui qui a la foi en l'Église, mais qui n'a pas la charité. Donc il n'a pas l'état de grâce. Cette personne cherche son propre honneur, mais pas celui de l'époux. Donc Saint-Hilaire va expliquer, la robe nuptiale, c'est la grâce du Saint-Esprit. La pureté de l'Esprit céleste préservée pure et sans tache pour la compagnie du royaume des cieux. Ce vêtement nuptial, Saint Jérôme, représente les commandements de Dieu et les œuvres faites sous la loi et l'Évangile, ce qui forme le vêtement de l'homme nouveau. Liez-lui les mains et les pieds. Les désirs mauvais et dépravés sont les chaînes qui vont lier celui qui est condamné aux ténèbres extérieures. Les péchés contre nature sont des chaînes, littéralement, qui emprisonnent les intelligences. Rappelez-vous le dicton qui dit « le poisson pourrit d'abord par la tête ». Quand l'intelligence est pourrie, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Plus rien à faire. Et Saint Grégoire, vous voyez, on retrouve les mêmes choses. Ils sont fidèles tous à Saint Paul. Hein. Saint Grégoire dit « les ténèbres intérieures sont l'aveuglement du cœur, alors que les ténèbres extérieures sont la nuit éternelle de la damnation. » Donc les ténèbres intérieures amènent aux ténèbres extérieures. Les mains et les pieds liés, les pleurs et les grincements des dents prouvent la vérité de la résurrection des corps. Chaque personne en enfer aura son sentiment particulier, correspondant à son vice particulier. Les grincements des dents seront pour ceux qui ont trouvé leur plaisir dans la gourmandise, les pleurs seront pour ceux qui sont vautrés dans les désirs illicites. Rappelez-vous les textes splendides de l'imitation du Christ sur les châtiments des pécheurs. Continuons avec ces textes des pères de l'Église. Quand Dieu va éprouver et purifier son Église, il entre dans la salle du festin pour y voir les invités. Et s'il trouve quelqu'un qui n'est pas revêtu de la robe nuptiale, il lui demande comment peut-il prétendre être chrétien alors qu'il a négligé les œuvres. Donc posons-nous cette question à chaque fois que nous nous présentons au banc de communion. Avant de s'agenouiller au banc de communion, les mains jointes pour se préparer à recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, commençons par faire un bon examen de conscience pour bien vérifier qu'on est en état de grâce. Si j'ai négligé les œuvres, mon âme a été livrée aux chefs séducteurs qui vont lier mes mains et mes pieds, lier les mouvements de mon esprit et me précipiter dans les ténèbres qui sont les erreurs des gentils, des juifs et de l'hérésie. Donc les ténèbres intérieures sont celles des gentils, c'est-à-dire des non-juifs, car ils n'ont jamais entendu la vérité qu'ils méprisent. Les ténèbres extérieures sont celles des juifs qui ont entendu mais n'ont pas cru. Les frontières extérieures seront pour les hérétiques qui ont entendu et ont appris, mais ont refusé de suivre par leur intelligence notre Seigneur Jésus-Christ. Donc en bas de la page 12, sur le polycopier, donc vous avez un résumé en quelque sorte de tout ce que disent les pères. Le roi est Dieu le Père, le Fils est le roi. L'époux est le Fils de Dieu incarné, Jésus-Christ, dont l'épouse est l'Église. Et son mariage a commencé avec l'incarnation du Christ, car il a hypostatiquement épousé ou uni la nature humaine à lui-même. L'Église, c'est-à-dire tous les fidèles, deviennent mystiquement son épouse par la grâce. C'est au ciel que ses noces seront consommées par la gloire. Quel texte magnifique des pères de l'Église. Je n'ai pas noté systématiquement d'où venait ce texte. Je regrette un peu de ne pas l'avoir fait. Je ne me rappelle plus qui a écrit ce texte. C'est un des pères. C'est un peu le style de saint Augustin, ça. Mais relisez ce texte. Donc, notre Seigneur, ce mariage de notre Seigneur Jésus-Christ, organisé par Dieu le Père, représente à la fois le mystère de l'incarnation, donc, et à la fois le mariage, les épousailles dans l'Église catholique. Lorsque nous joignons l'Église catholique, nous devenons des enfants adoptifs de Dieu. Donc, l'épouse mystique du Christ, c'est son Église. Et ce mariage a commencé, disent les pères, avec l'incarnation du Christ. Car il a épousé ou uni la nature humaine à lui-même par le mystère de l'incarnation. Donc il a uni la divinité avec l'humanité en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme ces textes sont beaux et qu'il faut les méditer, certainement c'est un bel exemple à mon avis de ce qu'on manque lorsqu'on n'étudie plus les pères. Vous voyez, vous lisez un texte comme le début du chapitre 22 de saint Matthieu, bon ben voilà, bon ben oui d'accord, il y a un monsieur très riche, un roi qui fait les noces de son fils, et puis il invite tout le monde parce que ceux qui étaient invités ne sont pas venus. Alors il invite les autres, et puis bon, il faut être bien habillé parce que si on n'a pas la robe nuptiale, on ne peut pas rentrer. Et il ne voit pas du tout ce que les pères de l'Église, eux, ont vu. Ce mariage représente l'incarnation, ce mariage représente les épousailles de notre Seigneur Jésus-Christ avec son Église. Et cette robe nuptiale qui manque, c'est l'état de grâce. Alors, le texte prend un sens complètement différent. Et moi, j'ai toujours été peiné, vraiment peiné de voir combien peu nombreux sont les prêtres qui utilisent les écrits des pères de l'Église pour expliquer l'Écriture sainte. Et j'ai commencé à comprendre ça en lisant, j'étais séminariste, en lisant les écrits de Don de Montlion. Il a écrit des textes magnifiques, malheureusement il n'a pas eu le temps d'expliquer toute la Bible. Hélas, bien peu comprennent ces choses-là, c'est pour ça que notre Seigneur va terminer ce texte en disant « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Voilà, nous allons terminer avec une prière.
Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, Saint Jérôme, priez pour nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.